comme j'ai dit, moi, je savais que j'allais probablement pas continuer dans la recherche toute ma vie. Mais, ceci dit, merci. Voilà. Ceci dit, c'est aussi vrai pour la plupart des personnes qui font une thèse. Ça, c'est pas pour vous décourager, c'est pour nous donner une idée de la réalité des choses. Et c'est, voilà. Je veux pas être pessimiste ce matin, mais je pense que c'est important qu'on ait une vision un peu réaliste des choses dans la recherche. Donc, j'ai lu dans le livre où j'ai trouvé cette graphique, j'ai lu que pour les postes en sciences de la nature, donc les postes permanentes, il peut y avoir jusqu'à 160 personnes pour une poste, et dans les sciences humaines, 450 personnes pour une poste. Donc, et ceux qui réussissent à avoir ces postes et continuer à avoir à être professeur, sont ceux qui ont publié les plus des articles. Et donc, ainsi on arrive à notre phrase « publish or perish ». Donc, avec de telles perspectives, on ne s'étonne pas que l'ambiance dans les groupes de recherche peut être une ambiance de stress, de concurrence, de l'anxiété. Pour mon cas, j'ai été inspirée par des grands chercheurs dans le passé, tu vois. Mais notre rêve de faire des découvertes incroyables pour changer notre monde pour le mieux, dans un esprit de partage et de collégialité, ce rêve s'est évaporé hein, dans la réalité. Car on est confronté à, de nos jours, de nombre de recherches, de concurrence, d'autopromotion et de l'instabilité de carrière. Et en tant que doctorant, je ne sais pas, peut-être vous travaillez dans cette ambiance. C'est moins le cas pour moi dans la thèse, mais surtout en postdoc. Mais bon, parce qu'on vient tous des disciplines un peu différentes, on va faire un travail de groupe. Donc, les deux qui sont derrière, là, il faut venir hein, parce qu'on va travailler. j'aimerais qu'on fasse une... C'était quoi? Une tempête d'idées.
Oui, une tempête d'idées.
De faire une liste, en fait, des choses qui rendent la thèse difficile. Pourquoi est-il difficile, stressant, angoissant, je ne sais pas, de faire une thèse? Il y a un stylo et du papier. On n'a pas un grand truc, mais... Oui.
Donc, il y a un stylo et un papier.
Oui. Donc, et après, c'est à vous les idées. Pourquoi c'est difficile de faire une thèse?
Il faut un secrétaire.
Oui. Et ne demande pas à Laura la faire, ce n'est pas gentil. Tu veux être...
Ok, moi...
Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit c'est difficile, si on est parlé francophone.
C'est ça, ouais.
Alors,
c'est pour ça que la table est éloignée.
Pourquoi est-il difficile de faire une thèse, Marguerite? Pourquoi? Qu'est-ce que c'était difficile pour toi?
Des fois, l'absence de résultats.
Oui.
Et le fait de ne pas savoir... si la voie que j'emprunte est bonne et si elle va conduire à
la bonne résultat.
Ouais.
Donc l'incertitude.
Ouais, l'incertitude.
La gestion de l'incertitude.
Que les conditions ne sont pas toujours bonnes. Moi, je travaille dans un institut de recherche où on a des problèmes. Bon, je fais l'expérience dans un animal où on a des problèmes de contamination dans l'animalerie. Donc, tout ce que je fais, peut-être. Je travaille là comme une folle pendant quelques mois et peut-être il faut tout jeter à la poubelle, donc les conditions ne sont pas bonnes.
Mais en biologie, il n'y a pas simplement la question de savoir si c'est la bonne piste, si c'est la bonne direction. C'est aussi, est-ce qu'aujourd'hui la manip va fonctionner et demain peut-être ça va fonctionner et c'est...
Est-ce que c'est pas un comment on dit ça? Artefact.
Artefact.
Oui. C'est comme pour ça.
Mais bon, les artefacts, ça doit exister dans tous les milieux, non?
C'est pas encore la gestion de l'incertitude. Faut que vous définissiez ce que c'est qu'un artefact.
Un artefact, si je fais une manip et j'observe un effet, par exemple une augmentation d'un certain paramètre, est-ce que c'est vraiment dû à ce que moi j'ai changé ou est-ce que c'est dû à un facteur confondant extérieur, parce que il y avait... ces souris-là qui ont reçu, qui étaient infectées, en plus, je n'ai pas détecté ça. Ou, ouais. Donc, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais provoquer ou est-ce que c'est un effet
L'effet secondaire.
Ça y est, c'est partout.
Comme
c'est, ça,
oui, les artefacts, il y en a peut-être dans toutes les... Joël, tu voulais dire une autre chose qui rend difficile, non?
Non, c'est la question de
non, c'est que j'essaie plutôt au fil de l'entretien, si ça ne... d'apporter avec mon regard des mots qui amènent une sorte de synthèse,
oui.
Mais pas une synthèse qui enferme, juste qui permette éventuellement de relier
avec
la
les
réaction que Thèse a donnée. Là, il me semble qu'un élément commun, c'est l'incertitude, et peut-être même pour parler dans les catégories scientifiques et cartésiennes, c'est la gestion du doute.
Oui. Ouais.
Moi, c'est une thèse industrielle, du coup, c'est peut-être différent. Il y a aussi une histoire des moyens. Parfois, tu ne sais pas si tu auras des belles idées, mais tu ne sais pas si tu auras de quoi les appliquer.
Oui.
Et pourtant, il faut continuer d'avancer. Voilà, c'est l'incertitude. Tu ne sais pas si au bout du truc, tu auras de quoi tester.
Mais aussi de se tromper dans une méthode ou quelque chose et devoir recommencer parce qu'il y a quelque chose, il y a une erreur, donc il faut recommencer.
Oui, oui.
Oui, c'est aussi qu'on est en apprentissage, donc on fait des fautes. Oui, mais là, parfois, ça fait quelque chose qu'on a fait pendant des mois et après, si on se rend compte qu'il y a une erreur, donc il faut recommencer.
Oui, oui, oui. Oui.
Et là, c'est comme. Ah.
Mais en biologie, on dit souvent qu'on a les vrais résultats pour la thèse, on l'a dans la troisième année. C'est normal de n'avoir rien et d'avoir les résultats en troisième année. C'est pas le cas pour tous, mais dans mon labo, c'était souvent ça.
Contre l'effet désespérant de ce qui s'avère une erreur après l'essai, une manière d'y réagir est de considérer que sur le plan de la production scientifique, une erreur est un repère intéressant et permet de progresser. Bien sûr, par rapport à publish and perish,
et on ne peut pas publier les erreurs.
On ne publie pas les erreurs ou les échecs, ce qui est dommage.
Oui.
Parce que ça permet à d'autres de ne pas s'engager dans des voies qui ont été repérés par expérience comme des impasses.
Ça c'est arrivé, un prof racontait une histoire, c'était une fille dans son labo qui avait suivi une voie de recherche pendant 3 ans, un truc comme ça, s'était rendu compte que le truc ne marchait pas, elle avait dit de quoi avec ses collègues, il y en a un qui a dit « Ah ouais, j'avais découvert ça il y a 10 ans et... » J'ai jamais publié.
Ah oui, non, mais ça, au sein du même labo, ça, il devrait savoir dans un groupe. Ça, c'est...
Oui, mais là, oui, c'est le problème. Ils ne peuvent pas savoir si quelque chose ne marche pas. Donc, là, ils ne savent pas.
Mais dans le même groupe, normalement, c'est...
Mais là,
normalement, c'est obligatoire.
Si quelqu'un demande...
Mais s'il n'y a pas de la communication
entre les... Oui, en fait, s'il n'y a pas de communication, donc...
Qui essaye de voir, ça ne fonctionne pas.
Mais ça, c'est quelque chose aussi, je pense, qu'on peut communiquer. Ce qu'on peut mettre, c'est le manque de communication... au sein d'une même équipe.
Est-ce que ça arrive qu'au sein d'une même équipe, il y a un intérêt à ne pas communiquer pour que l'autre n'avance pas?
Oui, il y a des... on va arriver à la concurrence au sein d'une équipe, oui. Agréable.
Au moins, moi, j'ai fait mon master en économie, au moins dans l'université là-bas, en économie, c'était la compétition entre les profs. Donc c'était comme qui est meilleur que l'autre et qui va faire mieux chose que meilleur que l'autre. Donc,
Ça c'est bien, pareil c'est... entre tous les chefs dans tous les domaines, non?
Mais là moi j'ai au moins dans l'informatique, moi je vois qu'il y a plus de collaborations.
Ah c'est bien, ok.
Bah, là-bas c'était chacun dans son côté de l'économie et moi je suis meilleur que toi.
Et en informatique c'est mieux, il y a plus de collaboration.
Moi je vois que c'est mieux.
C'est bien.
Mais quand même, il y a cet esprit de compétition.
Mais ce qui est aussi difficile, justement, bon, à gérer, quand on va au concret, on parle de ces résultats, mais il ne faut pas tout dire. Donc, il faut vraiment se méfier parce que j'ai rencontré un monsieur, je lui parlais, moi, je trouvais qu'il était super gentil. Mais quand il était en face de ma chef, après, il était très hautain. Et comme s'il voulait avoir l'information pour l'utiliser pour lui. Mais avec moi, il était un peu...
Mielleux.
Oui, Oui, donc oui. Et je trouve ça très difficile de gérer, surtout moi, je parle de ce que, oui, on a découvert, si on me pose une question, bien sûr que je dis, ah oui, on a fait ça, mais il faut vraiment, ah non, je ne vais pas dire notre idée, donc ça, gérer un peu cette secret, la concurrence,
Il y a eu un truc aussi, que j'avais des résultats un peu, qui venaient à l'encontre d'autres publications. Ah ouais, on a pas mal discuté avec mon directeur comment formuler ça, parce qu'après c'est les autres personnes qui ont publié ces choses-là qui vont valider ou pas ton travail. Et du coup, ouais, tu dis ça n'importe comment, même si c'est vrai, ils vont pas laisser passer. Ça, c'est
oui, parce que ce serait l'autre équipe qui sont les reviewers pour le... Oui, c'était alors... toujours comme ça aussi avec nous, c'était souvent les gens en compétition qui étaient, et aussi les référés, comment on dit ça, les...
Reviewers.
Pour les comités de relecture.
Oui, sauf que c'est
pas que les relecteurs, c'est pas les relecteurs,
ils critiquent les expériences.
Ouais. Oui, mais les comités de relecture des revues scientifiques, de toute façon, ils critiquent.
Oui, c'est ça.
Ouais. C'est vrai que ça a fait. On est très éloigné de la science pour la connaissance.
Mais on arrive à cette belle ambiance qui existe maintenant avec tous les problèmes d'argent. Est-ce qu'il y a d'autres. Ceux qui ne sont pas dans la science, peut-être.
Il me semblait que toujours par rapport au fil de la gestion de l'incertitude, je voulais à nouveau insister sur le côté positif d'une expérimentation qui s'avère finalement une impasse ou un échec. Et bien, par rapport à la gestion de l'incertitude, quand on se trouve devant ce qui est un échec démontré, eh bien là, pour le coup, paradoxalement, c'est une certitude. Ce que certains philosophes, en particulier Jean-Luc Marion, appellent une certitude négative. Il est plus facile, autrement exprimé, d'avoir des certitudes négatives que d'aboutir à une certitude positive qui correspond à une avancée de la recherche reproductible et publiable.
Ce qui rend aussi la thèse difficile, c'est le décalage entre les objectifs qu'on a. Donc, et puisqu'on est naïf au début, donc on se dit je vais faire ça. Et donc on se lance dedans. Et finalement, la charge de travail, c'est trop important. Et avant, on ne se rendait pas compte. Quand j'ai développé mes plans d'expérience, je ne savais pas que ça va être si lourd. Et. Bon, il n'y avait pas toujours le retour de ma directrice, quoi, de dire ok, ça va être trop lourd. Il y avait des contraintes. Donc. Un peu l'ambition, de gérer son propre ambition en fait.
Ouais. Mais aussi, tu as touché sur une autre chose, je pense vraiment très différent entre labo, entre culture, entre plein de choses. C'est l'implication du chef du labo, la directrice de thèse, qui. Peut aider plus ou moins en fait, c'est vraiment selon les équipes, tu as beaucoup plus d'aide que dans d'autres.
Oui, ça fait écho dans ma propre expérience, hein, pour le côté recherche en philosophie. Quand la thématique de recherche du doctorant entre dans le champ de recherche de son directeur de thèse, il y a deux réactions possibles. Le directeur de thèse peut respecter la voie ouverte par son doctorant et il la soutient et il met en sourdine sa propre recherche pour faire valoir ce que fait le doctorant, ou bien la deuxième option, il considère qu'il y a une concurrence potentielle qui va le dépasser par rapport à l'objectif publish or perish, et à ce moment-là, soit parce qu'il devient passif, il n'encourage plus, ou au contraire, il peut être tenté d'orienter sur d'autres pistes, ça représente une difficulté pour le thésard.
Et actuellement, je crois que, bon, je ne sais pas si je vous dis, c'est la même chose que je vis, parce que moi je suis en co-tutelle entre l'Université de Côte d'Ivoire et celle de Toulouse. Donc évidemment, j'ai deux directeurs. Et les deux directeurs ont chacun ses exigences et quelque part je me retrouve à un carrefour où, voilà, je ne sais plus ce qu'il faut faire.
Oui.
Donc, ce qu'il dit, c'est vraiment vrai. Donc, franchement, ça devient vraiment un fardeau. Et puis, bon, je ne sais pas, il faut gérer les deux tendances, il faut essayer de les réconcilier, il faut essayer de trouver le juste milieu. Mais c'est difficile parce que bon, chacun, quand on est sur sa vision, sa manière de voir comment il faut aborder le thème, et puis, bon, c'est un peu compliqué.
Oui. En principe, dans la science, on ne devrait pas avoir ce problème en tant que thésard parce que le. Il est parti dormir. On a trop parlé. Parce que, au moins dans les labos scientifiques, quand on publie, c'est toujours le directeur qui est en dernière hauteur. Donc il a tout à gagner si toi tu publies bien, en fait. Normalement. Et tu fais, je dirais, mon expérience, c'est que tu fais forcément quelque chose qui est dans son. Parce qu'en fait, ils vont. Bon, dans mon cas, c'était vraiment le chef qui a décidé le projet.
Exactement. C'est bon. Bien pour ça que j'ai commencé en disant que c'était peut-être spécifique à des champs qui ne sont pas exactement la science
pure et
dure.
Parce que les philosophes, ils publient que sur leur nom, je crois.
Ah oui, tu publies que sur ton nom. C'est ça. Les philosophes, tu publies juste ton nom sur l'article quand tu publies, c'est ça, ou sur le.
Plusieurs options sont possibles, mais dans le champ de la recherche, oui, on ne publie que sous son propre nom.
Ah oui, ah, oui, donc c'est vraiment différent.
Ah,
ouais. Donc on est plus isolé.
En fait, c'est toujours collaboratif. Il y a une dizaine de personnes seulement pour
publier. Oui, en fait, c'est ça. En fait, ça, c'est quelque chose de plus moderne aussi. Plus dans les années plus récentes, il y a toujours plein de monde sur les articles. Mon chef avait publié les articles quand elle était jeune chercheur, elle, juste son nom.
Et voilà, parce que
c'était à une certaine époque.
Voilà. C'est un biais, pourvu qu'on ait son nom sur une liste, ensuite ça dépend de
l'ordre
dans lequel on est, mais il y a quand même une tentation à multiplier les publications pour avancer plus vite dans la carrière.
Non, mais dans la recherche maintenant, en fait, c'est aussi parce que les techniques ont changé. Je veux dire, en fait, c'est bien, et en fait, c'est plus un signe de collaboration qu'il y en a plus de personnes, mais il y a tellement de choses qu'on ne peut pas faire toute seule.
Alors, cette dynamique-là, vaut aussi pour les sciences humaines et la philosophie et pour la médecine, le soin, puisqu'on voit bien là que les bonnes décisions ne peuvent être prises qu'à plusieurs. Alors que moi, je suis un antécambrien formé à la médecine il y a longtemps, j'ai appris au plan médical qu'un médecin a en lui-même, tout seul, les ressources pour bien décider, les ressources de connaissance, il est docteur, et les ressources de sagesse, il a l'expérience. Eh bien, j'ai vécu sur cet apprentissage, et ma carrière professionnelle a consisté à désapprendre ça, et à apprendre que je ne pouvais pas décider, je n'avais pas en moi tout seul toutes les ressources pour bien décider. Et donc, ça m'a appris à coopérer.
Alors on va passer à ma deuxième question de tempête d'idées, qui est selon vous et votre expérience, est-ce que le fait d'être chrétien change quelque chose dans votre façon de vivre les années de thèse, ou être chrétien doit-il changer quelque chose dans l'idéal des choses?
Bon, la première chose qui vient, c'est quand ma chef elle me met la pression, oui, mais il faut bien publier pour avoir ta carrière derrière, et je veux pas que tu finis n'importe comment, moi je veux un bon postdoc pour toi. Et moi je me dis ok, mais c'est pas que dans mes mains, c'est dans les mains du Seigneur. Moi je fais ce qu'il me demande, mais après je vais pas me tourmenter. Si Dieu veut que je continue, il trouvera. Pour moi. Et ok, non, je me laisse pas faire la pression là-dessus.
Moi, je vois, parce qu'il y a un ami du labo qui, parfois, il me dit moi, j'ai pas dormi toute la nuit parce que j'ai passé tout le temps à penser comment je vais faire quelque chose, parce qu'il faut publier, il faut faire des choses. Et là, moi, je vois que, ok, moi, si. Parce que quelque chose ne fonctionne pas, même je vais dormir parce que c'est pas ma vie. Donc là, moi, je vois, c'est la différence. Une fois, j'ai vu, il y a plusieurs amis du labo qui restent au labo beaucoup de temps, le week-end et tout ça. Et bah, c'est quelque chose qui m'a choqué. Bah, j'ai parlé avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais je disais, là, tu vois qu'il y a quelqu'un qui travaille tout le temps, il travaille beaucoup. Donc il faut faire comme ça, ou je sais pas quoi. Donc il m'a dit non, mais c'est il y a des priorités différentes. Comme ça, j'ai compris que moi j'ai des priorités différentes. Moi, j'ai vais à l'église, j'ai vais à un autre groupe. Donc, on a des priorités différentes. Et comme ça, on sait que par la recherche, ce n'est pas la chose la plus importante de notre vie. Et comme ça, on dort bien. On dort bien et on sait qu'il faut gérer le temps et qu'on va avoir le temps pour faire tout.
Moi, perso, ça m'a fait prendre plus de risques. Parce que je me dis, la thèse, c'est quand même l'opportunité d'explorer, d'apprendre des choses nouvelles, tirer un peu la fin. Moi, comme je suis dans un milieu industriel, bah, souvent les contraintes industrielles, il faut que ça réponde aux demandes de l'entreprise. En fait, mais je suis payé. Et du coup, souvent, on a des demandes moins techniques. Mais quand même, le but d'une thèse, c'est de tirer un peu la science, d'explorer des choses. On ne sait pas si ça va marcher. Et du coup, ouais. Ce que je suis en train de faire en ce moment, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Du coup, je me dis, ouais, je joue le jeu. Je vais à fond et c'est intéressant, ça me plaît aussi beaucoup. Il se peut que ça ne va pas marcher. Du coup, là, je dis, ouais, c'est Dieu qui prend la responsabilité de moi, j'ai vu le jeu. Et après, je laisse tout en traitement.
Dans le domaine médical, et je veux dire des carrières, puisque Publish for Perish, c'est aussi pour, bien sûr, faire une carrière universitaire en médecine. Ça ne concerne donc pas le doctorat de base qui fait qu'on est docteur en médecine. Ça concerne plutôt les thèses de recherche dans lesquelles on s'engage quand on veut devenir un universitaire dans le monde médical. Là, le dilemme éthique qui met en jeu la foi chrétienne et qui est vraiment résumable par « publish or perish », c'est le suivant. Un jeune médecin qui est interne a l'obligation à la fois de soigner et de chercher. Et dans le service où il soigne, il doit pouvoir concevoir, organiser et réaliser des protocoles de recherche clinique. Une tentation pour pouvoir publier et d'augmenter le temps passé pour la recherche par rapport au temps passé pour le soin. Et donc, on voit bien la difficulté et les conséquences négatives pour la santé des personnes malades. Mais il y a également, de manière plus subtile, une autre difficulté, c'est le chevauchement entre le domaine du soin et le domaine de la recherche, avec une possibilité pour avoir un peu plus de cas publiables, de ne pas informer correctement la personne soignée qu'on est en train de faire de la recherche avec elle. Un exemple précis et concret, c'est prescrire une prise de sang pour des analyses. Dans ces analyses, il va y avoir 10 tubes prélevés et envoyés au laboratoire. Et on peut être tenté par le fait de ne pas dire que sur ces 10 tubes, il y en a 9 qui sont consacrés véritablement à faire le diagnostic ou la surveillance pour la maladie de cette personne que je soigne. Et puis le 10e tube, lui,
on aurait pu ne pas le prélever, et on le prélève parce que le sang qui est dedans va servir à la recherche que je fais parallèlement, et pour être sûr d'avoir un grand nombre d'échantillons et de personnes concernées, je vais être tenté de ne pas le dire, parce que la personne qui a sa prise de sang ne va pas compter qu'il y a 9 ou 10 tumeurs.
Ouais. Mais c'est illégal, non?
Évidemment,
parce que c'est... moi je devais cocher sur une feuille.
Évidemment que c'est illégal, mais c'est une
tentation. Ouais, effectivement. Oui, des tentations de mentir et de tricher. Comme, oui, exact. Donc, c'est pas le mien, j'avais regardé l'heure.
Ah, oui, c'est vrai
qu'il manquait. Mais c'est pas grave. Dans l'autre sens.
18, il est 10h18.
Bon, on va avancer rapidement alors, mais c'est pas grave, après on ne discutera dans les groupes. Donc, c'est quelqu'un, donc, si vous ne prenez pas l'anglais, donc c'est le. C'est le pneu qui a beaucoup de pression, subit beaucoup de pression au travail. Donc, on peut être dans une situation de travail, pendant la thèse, où on a beaucoup de pression. Et on a aussi beaucoup de... Alors, est-ce que je vais arriver d'aller... Oui, beaucoup de stress. On peut sentir comme ça, selon notre caractère, peut-être plus l'un ou l'autre. Et donc, on peut trouver beaucoup de livres et d'études sur le stress, l'anxiété, les sources, les remèdes. Mais comme on en a parlé hier soir, dans ce domaine, le chrétien ou la chrétienne a un énorme avantage, en principe, par rapport aux collègues athées, ou non-croyants. Car l'antidote par excellence pour le stress et l'anxiété, c'est la confiance en Dieu. Nous en avons discuté hier soir. Et le Nouveau Testament nous enseigne beaucoup sur cette confiance en Dieu. Nous savons que Dieu maîtrise toutes choses, qu'il nous aime, il est tout puissant, ses plans sont bons pour nous, donc il n'y a pas de problème. Alors, il faut qu'on demande si Dieu est intéressé par notre thèse. Tu peux te poser cette question. Parle vraiment le travail de recherche. Quel est le lien entre notre travail de recherche et notre relation avec Dieu? Je pense, pour mon cas, pour ma thèse, hein, je pense que c'était très facile pour moi d'exclure Dieu de ma recherche. Hein. En pensant que je devais d'abord chercher le royaume de Dieu, qui est vrai. Donc, je priais pour la conversion de mes collègues. Et peut-être aussi que Dieu m'aide à avoir une bonne attitude face aux injustices et les frustrations, pour être un bon témoin. Mais j'ai entendu une fois, lors d'une formation à la prédication, que prier sans travailler, c'est la paresse, mais travailler sans prier, c'est l'athéisme. Et donc faire notre recherche sans prier, sans demander de l'aide à Dieu, c'est être les athées fonctionnels, en fait. Ou on peut appeler ça l'impiété. Donc la piété dans la Bible s'exprime par notre attachement à Dieu, de vivre notre vie conscient de sa présence à chaque instant et en tout lieu. Donc vivre notre vie devant Dieu. Et je sais pour ma part, c'est difficile. C'était difficile de vivre ainsi pendant ma thèse, et c'est toujours difficile. Donc dans son livre, c'est pour ça qu'on a quelques copies ici, dans ce livre, Jerry Bridges, donc il met cette impiété comme la source de beaucoup de péchés, car c'est en oubliant la présence et l'existence de notre Père Céleste que nous adoptons les attitudes des gens qui nous entourent. Et particulièrement, nous oublions la bonté et la souveraineté de Dieu dans notre vie, et nous sommes envahis par le stress et l'anxiété. Moi, je suis quelqu'un qui, je critique pas ça, mais je suis quelqu'un d'assez stressé. Tu vois, c'est un combat et c'est toujours un combat pour moi. Donc, ne vous sentez pas visé si vous êtes aussi quelqu'un qui est facilement inquiète. Donc, encore un verset qui nous encourage. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Donc Pierre nous invite de nous humilier devant Dieu, de se rendre compte de notre dépendance de lui, et de nous décharger sur lui tous nos soucis, tout, car il prend soin de nous. Alors, peut-être c'est que moi, mais moi, pour moi souvent, je prie pour les choses spirituelles, Et pas forcément, je ne priais pas forcément pour mon travail. Et pourtant, notre travail occupe une très grande proportion de notre temps, surtout en thèse, et par la suite. Donc, Dieu, il est aussi intéressé par ces choses-là. Et j'ai eu une discussion une fois avec d'autres chercheurs lors d'une journée RSE, donc Réseau des scientifiques évangéliques, sur la question, est-il légitime de prier pour nos expériences? Dans l'autre sens, est-ce que j'ai mon... Là. Est-il légitime de prier pour nos expériences? Qu'en pensez-vous?
Moi, je le fais parfois. Parce que, parfois, les conditions au labo sont un peu trop agitées. Je sens, là, je peux bien me rater, surtout quand je travaille avec le vivant. Donc, parfois, je dis que Seigneur aide-moi, que je veux bien. Et bon, malheureusement, je pense que je devrais le faire plus souvent, mais... je remarque quand même que ça, au moins, ça me donne déjà plus de calme et je me dis, ok, c'est dans les mains du Seigneur, moi, je peux rater, mais.
Vous priez pour vos expériences, vos protocoles, vos algorithmes?
Oui, pour trouver l'erreur.
Pour trouver l'erreur, d'accord, ok. Quand ça ne marche pas, tu prie que Dieu te montre l'erreur.
Parce que parfois, c'est pas évident. On parle des emails, à voir si. C'est où l'erreur? C'est pas bien.
Moi, je me souviens que j'avais particulièrement prié pour une manip pendant la dernière année de ma thèse. Et en réalité, c'est pas une exagération. Si j'avais pas ce protocole, j'avais pas de résultat pour ma thèse. Donc, c'était quand même assez important pour moi. Parce qu'après, je devais passer tout ce que j'avais préparé pendant les deux ans passés, je devais passer par ces protocoles pour donner les résultats qu'on attendait. Et donc, j'ai beaucoup prié pour cette expérience, mais je pense que je raisonnais ainsi. Il me faut ma thèse pour aller en France, pour le postdoc. En France, je vais servir Dieu en tant que missionnaire. Donc, c'est la volonté de Dieu que j'ai ma thèse, et ainsi j'ai le droit de prier pour cette manip.
C'est imparable.
Mais... Donc, je pense et j'espère que mon attitude a évolué entre temps. Mais je pense qu'il est quand même très facile pour nous, même ce qu'on a entendu, on ne prie pas systématiquement. En fait, souvent, on fait tout un peu tout seul. Et Dieu, il s'intéresse à tout.
Donc, oui, surtout que aussi, je ne sais pas vos thématiques de thèse, mais la mienne, je vois quand même que ça pourra avoir un impact plus tard pour la société. Donc, moi, j'aimerais bien vraiment trouver ce que Dieu a caché, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il a caché de ce que je suis en train de chercher. Donc, je lui prie de me révéler ça pour que ça puisse aider plus tard, même si ce n'est pas moi, ou même si ça dure encore 30 ans, qu'il y a des choses qui changent, mais que Dieu révèle, quoi. Parce que il y a un verset dans la Bible qui dit « C'est la gloire de Dieu de cacher les choses, et c'est la gloire des rois. » Je ne sais pas, de trouver.
Oui. Donc, nous avons besoin de rappeler que Dieu prend soin de nous. Et aussi, comme ce livre aussi exprime, l'anxiété est proscrite pour le chrétien. Quand Jésus dit « Ne vous mettez pas en souci pour rien », ce n'est pas des mots d'encouragement, comme on l'a dit. « Ne vous inquiétez pas », en fait, c'est un autre. Donc, il dit, réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Donc, toute cette incertitude et l'inconnu et la pression et tout ce qu'on et le manque de communication et les maniques qui ne fonctionnent pas, on peut prier pour toutes ces choses et Dieu nous donnera sa paix.
Pas forcément ce qu'on demande, mais
pas forcément les résultats.
C'est ça,
il nous donnera la paix. Quand on va pouvoir dormir. C'est vraiment important de veiller sur notre vie de prière. On a parlé hier soir de prier avec les personnes à l'église, ou de créer des groupes WhatsApp avec les personnes ici, pour partager les sujets, pour prier les uns pour les autres. Alors, j'ai entendu récemment un chercheur vers la fin de sa carrière et il partageait un peu comment sa vie de prière a aidé pour son travail. Il donnait quelques exemples. Il avait deux collègues difficiles qui empêchaient vraiment l'avancement du groupe et tout l'ensemble des équipes. Et il ne savait pas comment ça allait résoudre, il priait. Puis finalement, ces deux personnes, ils sont partis ailleurs, ils ont pris des postes ailleurs. Un autre moment de sa vie, il n'y avait pas assez d'étudiants parce qu'il était enseignant-chercheur. Et s'il n'y avait pas assez d'étudiants, il n'y aurait plus non plus son département. Il a prié et Dieu a pourvu pour eux. Et ceci, je trouve le plus drôle, il était une fois dans une réunion de prière. Et il dit lui-même, il était peut-être un peu moins assidu dans la prière. Les autres étaient en train de prier. Et lui, il était en train de penser à un problème qu'il avait dans sa recherche. Mais pendant ce moment-là, il a eu la solution et il a su comment faire pour résoudre et pour avancer. Bon, voilà. Donc, comme Yo a dit, ces versets ne disent pas que Dieu nous donnera la réussite, mais qu'il nous donnera la paix. Il n'y a pas de place pour l'angoisse et le stress, mais c'est un travail de toute notre vie, je pense, de gérer cela. Et il faut rappeler que Dieu a les meilleurs plans pour notre carrière et même pour nos journées. Donc, une autre chose, est-ce que je pars dans le mauvais sens? Voilà, qui est difficile, je pense, dans la recherche, c'est la frustration. On y parle aussi dans ce livre, cette question de frustration. Je me souviens, alors je vais vous partager, je pense, une des choses qui m'a fait le plus honte au labo, vers la fin de ma carrière. J'étais enceinte de mon premier enfant et je voulais juste terminer ma NIP et boucler le projet et partir. J'en avais vraiment marre. Mais il y avait une contamination dans la, qu'on appelle la salle de culture. Dans la salle de culture. Mais mes cellules n'étaient pas affectées. Mais tous les autres, ils ont décidé qu'il fallait faire une décontamination. Et donc, ça veut dire qu'on doit tout arrêter. On doit utiliser un produit très toxique dans la salle et puis tout recommencer. Et donc, pour moi, en plus, en tant que femme enceinte, je n'avais pas le droit d'y être le jour qu'il faisait cette... Donc, j'ai perdu aussi un jour de travail et je compte un peu les jours pour terminer. Et donc, quand ils ont pris cette décision, j'étais tellement frustrée parce que moi, j'avais mes plans pour cette journée, pour les derniers mois. Je suis partie de la réunion en colère, et je pense une colère très visible aussi, tous les collègues ont vu. J'ai claqué littéralement les portes, je suis partie. Je regrette hein, parce que c'était une très mauvaise témoignage et c'est parce que j'avais vraiment perdu cette perspective que Dieu, il maîtrise chaque jour. C'est lui qui et il sait gérer en fait. Moi, j'étais pas prête à me soumettre à ses plans. Donc, comme il dit dans les psaumes 139, on a fait allusion aussi à cette psaume hier soir. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Il est quelle heure? Parce qu'on peut continuer un peu. On continue un peu. Bon, on continue un peu et après, peut-être les groupes de discussion, on a déjà pas mal parlé, donc on verra. Donc, moi, j'étais vraiment bénie pour ma thèse parce que j'avais une directrice qui avait déjà fait son carrière. Elle avait les projets bien définis pour chaque étudiant. Il n'y avait pas de concurrence entre les différentes personnes dans le labo. Mais comme tu as soulevé, il fallait faire gaffe à ce qu'on disait dans les conférences, dans les colloques. Et ma chef, elle aimait bien parler de toutes nos découvertes, mais elle aimait bien aussi publier les articles bien complets. Elle n'aimait pas publier juste la moitié de quelque chose. C'est pour ça qu'elle avait une bonne réputation, mais du coup, on ne publie pas très vite. Et une amie postdoc, elle a vu donc quelqu'un publier la moitié de son histoire quand l'article était sur le bureau de notre chef depuis quelques semaines pour qu'elle relise avant de se mettre. Donc cette question de concurrence, est-ce que je vais réussir à aller dans mon sens, est réel et compliqué. Donc, voici, moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Je trouvais ça, ça c'était dans un livre destiné aux chrétiens académiques. Effectivement, dans cette question de concurrence et de... d'avoir, il faut avoir la sagesse un peu du monde en restant innocent à notre égard. Donc, mais comme on a aussi dit, donc, il y a la concurrence entre les différents groupes, il faut gérer avec sagesse ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas partager. Et il y a aussi la concurrence au sein de même groupe. Donc, que parfois, il y a les chefs de labo qui veulent que tout le monde soit en concurrence pour qu'on travaille plus vite et tout. Et c'est assez horrible comme expérience. Pour mon postdoc, j'avais un chef de labo qui était jeune et qui n'était pas encore établi. Et c'était, bon, j'avais dit que c'était à l'époque de sauver la recherche, mais vous êtes peut-être tous trop jeunes aussi de se rappeler de ces choses. Ouais. Il y avait un moment donné, en 2002-2003, quand je suis arrivée, il y avait un grand changement dans les financements de la recherche en France. Et donc, on était là à manifester pour sauver la recherche. Donc, il y avait cette ambiance de beaucoup d'incertitude et d'inquiétude. Donc, mon chef était sympa comme personne, mais vraiment pas terrible comme chef. Et les projets changeaient tout le temps parce qu'il voulait publier dans les journaux avec les coefficients les plus hauts. Donc, on perdait beaucoup de temps à envoyer les journaux sans avoir le moindre espoir de publier là-dedans. Et dans notre équipe, il n'y avait pas forcément une concurrence ouverte, mais c'était vraiment chacun pour soi. Et donc, on était... Bah, moi, je suis arrivée avec la naïveté de mon labo avant où tout le monde travaillait ensemble. Voilà. Et je ne m'attendais pas à devoir défendre mon projet. Et donc, pendant la première année, j'avais quelques résultats intéressants, mais... ils sont partis dans deux articles de deux autres personnes dans le labo. Donc, j'étais deuxième auteur. Donc, après un an, j'avais deux articles en deuxième auteur. Donc, c'était pas mal. Mais du coup, j'avais plus de projet. Parce que les choses intéressantes étaient parties, tout était découpé. Et après quatre ans, j'avais même pas un seul article en premier auteur. Donc, et une autre personne au labo, pendant son congé maternité, ils ont décongelé ses cellules. Et ils ont fait quelques images. Ils ont mis ça aussi dans un article de quelqu'un d'autre. Donc, elle était troisième auteur, mais pareil, son projet a perdu beaucoup de son intérêt parce qu'ils ont déjà publié juste pour compléter l'article de quelqu'un d'autre. Donc, voilà, j'avais pas de tout, j'étais pas prudent comme un serpent. Donc, à savoir en tant que chrétien comment être sage, prudent, mais aussi de garder cette... cette innocence, dans le sens que de notre côté, de ne pas piquer les idées des autres, de ne pas tenter de manipuler le chef pour avoir l'argent pour notre équipement ou pour monopoliser le temps aussi sur certains équipements qui sont en commun. Toutes les tentations là, qu'on ne soit pas égoïste en fait, mais c'est vraiment difficile je pense en tant que chercheur en thèse ou en postdoc, de ne pas céder à cette tentation de chacun pour soi. Et on va terminer avec l'intégrité. J'aimais bien cette citation parce que je pense qu'en tant que thésard, on a l'impression d'être des esclaves. Je trouve que c'est très adapté pour nous, pour vous. Alors notre intégrité, à mon avis, va découler de notre confiance en Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on triche, comme on a dit, qu'on triche, qu'on ment, pour faire avancer ses plans. Donc, nous devons tout faire pour sa gloire, être conscient de son regard aussi. Même si d'autres personnes ne voient pas qu'on triche, Dieu nous voit. Donc, que ça nous aide aussi à garder cette intégrité, même si les gens autour de nous qui mentent un peu sur les manips, sur les résultats, sur la façon qu'ils ont fait, tout ça se fait dans la recherche. Donc, qu'on soit vraiment consciente et qu'on résiste à cette tentation. Et aussi, pour les demandes de bourse, il peut y avoir une grande tentation de mentir. Mon chef voulait que je demande un an de plus pour ça. Et il voulait du coup que je dise que je voulais continuer dans la recherche parce que c'était important pour avoir la bourse. Mais je ne voulais pas du tout continuer. D'ailleurs, je ne voulais même pas cette bourse. Je voulais arrêter la recherche. Donc, on a eu des drôles de discussions sur ce que c'est mentir. Je pense qu'on a finalement trouvé un compromis en disant que je voulais enseigner. Ce n'était pas forcément faux. Mais de toute façon, ce n'était pas difficile pour moi de dire que la vérité parce que je ne voulais pas la bourse. Je ne voulais pas continuer. Pourtant, j'ai fait la demande de bourse. J'ai prié tous les jours en quittant le métro pour aller au boulot que je n'aurais pas la bourse. Et pourtant, je l'ai eu. Alors, je n'aurais jamais dû faire la demande de bourse. C'est parce que je n'osais pas dire non à mon chef. Donc, je pense que ça aussi, c'est une difficulté qu'on a beaucoup de mal à résister, à dire non. Donc, et quand c'est dans les situations beaucoup plus graves comme les questions éthiques, les questions des patients ou autres, avoir cette force à dire non quand on ne fait pas bien et quand on sait qu'on ne doit pas le faire. Mais même des non pour notre propre carrière quand on ne peut pas, moi, j'arrivais même pas à faire ça. Voilà. On s'arrête là et on parlera de la futilité cet après-midi.